Dans ce journal, nous vous parlerons de constitution avec ces mots d'Emmanuel Macron en Nouvelle-Calédonie. On étudiera aussi quelques chiffres économiques avant de vous présenter le mini AIVA de cette année. Et ce journal, c'est avec Valdemar Delage. Bonjour Valdemar.
Bonjour Kevin, bonjour à toutes et à tous.
Une révision constitutionnelle s'annonce en Calédonie.
Oui, et rien que pour la Calédonie. C'est ce qu'a expliqué Emmanuel Macron aux médias du Caillou. Il vient de passer 3 jours en visite officielle. Le chef de l'État n'est pas rentré dans le détail de cette réforme qui doit s'appuyer, d'après lui, sur un consensus encore très lointain entre loyalistes et indépendantistes kanaks. Mais il a confirmé que les travaux étaient lancés pour enfin trouver une suite à l'accord de Nouméa. Écoutez.
Le degré et son ambition dépendent à la fois du calendrier, de ce sur quoi on c'est se mettre d'accord, mais il y aura de toute façon, pour permettre au moins cette avancée, et peut-être davantage, une réforme constitutionnelle. Elle portera sur la Nouvelle-Calédonie, et je l'assume comme telle, et après avoir parlé avec la présidente de l'Assemblée nationale et le président du Sénat, je sais aussi qu'ils partagent cette volonté que ce sujet puisse avoir son cadre constitutionnel propre.
Un cadre constitutionnel propre, précision importante, quand on sait que toutes les collectivités de l'outre-mer français guettent depuis plusieurs années les débats calédoniens et espèrent en profiter pour faire évoluer leur propre situation. Des missions parlementaires ont déjà été menées sur le sujet. La Guyane ou les Antilles veulent plus d'autonomie. La Réunion ou Mayotte demandent du sur-mesure. Et la Polynésie, elle aussi, voulait profiter de la fenêtre de tir, Charlie René.
Et ça n'est pas nouveau. L'année dernière déjà, Édouard Fritch évoquait devant les sénateurs parisiens une évolution du périmètre de la loi organique. Il demandait plus de valeur pour les lois du pays ou encore une reconnaissance du fait nucléaire au sein même de la Constitution. Les maires des Marquises voulaient aussi en profiter pour obtenir leur statut de communauté d'archipel. Mais c'est surtout Mwete Brotherson qui a parlé de cette fenêtre de révision constitutionnelle ces derniers mois. Le responsable indépendantiste demande un président élu directement par les Polynésiens, des compétences internationales étendues et puis une citoyenneté du pays. Des engagements de campagne évoqués à Paris et même à l'Élysée début juin, et d'après Mwete Brotherson, Emmanuel Macron n'était alors pas opposé à ces idées, Valdemar.
Pas opposé, mais pas complètement en phase. Donc la Calédonie passera d'abord, et même si le chef de l'État n'a pas exclu d'autres changements de statut, le fait est qu'on ne fait pas une révision de la Constitution tous les jours. Alors quoi qu'il en soit, Mwete Brotherson pourra évoquer le sujet directement avec Emmanuel Macron. Les deux hommes doivent se retrouver aujourd'hui au Vanuatu. Le président de la République aurait aussi invité l'élu polynésien à venir avec lui demain en Papouasie-Nouvelle-Guinée. D'après notre partenaire Outre-mer 360, il s'agit pour l'Élysée d'avoir une approche régionale de la diplomatie française dans le Pacifique.
Le PIB de la Polynésie retrouve son niveau de 2019.
Oui, c'est l'information principale apportée par les comptes économiques rapides outre-mer de la Polynésie française. Ils ont été publiés hier matin par l'ISPF pour l'année 2022. Alors à 660 milliards de francs pacifiques, le produit intérieur brut progresse de 4,5%, soit quasiment le niveau de 2019 d'avant-crise. Donc cela s'explique notamment par la reprise du tourisme. Nadine Jourdan, la directrice de l'ISPF, elle était l'invitée de la rédaction de Radio 1 hier.
L'économie polynésienne a créé de la richesse à hauteur de 4,5% au cours de l'année, ce qui représente un rebond par rapport aux années précédentes, après une croissance de 2,1% en 2021 et puis une chute qui avait été très forte en 2020 avec une chute de 7,2%. Donc la bonne nouvelle cette année, c'est que la croissance progresse vigoureusement, l'économie retrouve des couleurs. C'est un rebond massif et qui est principalement soutenu par la demande extérieure, c'est-à-dire le retour des touristes.
Le secteur touristique, justement, il a globalement vu ses revenus augmenter de 60% par rapport à 2021. Il contribue à lui seul à 70 milliards au PIB. Un exploit puisque les frontières n'ont rouvert entièrement qu'en mai 2022. Les autres produits d'exportation font moins bonne figure en revanche en 2022, car si les volumes exportés de produits de la mer sont stables, ceux de la perle de Tahiti sont en chute. Globalement, cette progression du PIB reste un bon résultat, mais toutefois insuffisant pour neutraliser les effets de l'inflation, qui est la plus forte de tous les outre-mer.
La consommation des ménages, elle représente effectivement 2/3 du produit intérieur brut. Et donc cette consommation des ménages en 2022, elle a progressé de 7%. 7%, mais si on enlève la hausse des prix moyenne annuelle de 6,3%, eh bien en volume, c'est-à-dire une fois gommée la hausse des prix, eh bien la consommation des ménages a progressé de 0,7%.
Et puis la progression des embauches, les hausses du SMIG et du point d'indice des fonctionnaires ont aussi permis de limiter la casse, mais c'est insuffisant pour soutenir le pouvoir d'achat des familles, d'autant que les hausses de prix les plus importantes ont touché l'alimentation et les carburants.
La hausse des prix a été particulièrement forte sur les produits alimentaires. La hausse des produits énergétiques aussi a été particulièrement élevée. Ce sont les deux produits qui ont le plus augmenté. On a un pouvoir d'achat qui, lui, diminue de 1,4%. Et puis derrière cette moyenne, derrière ces éléments globaux, il faut aussi retenir qu'il peut y avoir des situations individuelles très différentes. Chaque famille peut avoir une appréciation très différente de la hausse des prix.
Nadine Jourdan, la directrice de l'ISPF qui répondait à Caroline Perdri. Et parmi les chiffres à suivre ces prochains mois pour l'Institut, l'étude sur la comparaison des prix entre l'Hexagone et le Fénois s'est attendue pour le mois d'octobre. Pour rappel, la dernière comparaison montrait un écart de prix de 38% sur un panier composé des mêmes produits.
Il est encore possible d'échanger ses anciennes pièces.
Oui, l'IOM et Ferrerata rappellent à la population qu'il est encore possible d'échanger sa monnaie dans les 64 bureaux de poste de tous les archipels. Alors si vous habitez les îles Sous-le-Vent, les Tuamotu, Gambier, les Marquises ou les Australes, vous pouvez les échanger donc directement à la poste. Il faut être muni pour cela d'une pièce d'identité valide. Les habitants de Tahiti et Moréa peuvent quant à eux les échanger directement auprès de l'IOM à Papeete, selon les horaires indiqués sur son site internet.
Et un ravitaillement très attendu à Fakarava.
Oui, Fakarava qui est en mode débrouille, hein, puisque les deux groupes électrogènes de la commune qui alimentent l'atoll sont en panne depuis dimanche. Sur l'île, alors chacun fait ce qu'il peut pour combler ses besoins en électricité. Les plus prévoyants, particuliers comme professionnels, ont des groupes électrogènes indépendants ou des panneaux solaires qui couvrent en partie leur consommation. Les autres galèrent davantage puisque certains sont obligés de vider leur congélateur. La situation serait de plus en plus tendue et la population commencerait à s'énerver. Alors l'arrivée du Cobia ce mercredi est d'habitude très attendue, et bien elle l'est davantage dans ce contexte. La tournure des événements et le manque de visibilité sur la réparation du transformateur ont poussé les habitants à commander des groupes électrogènes qui devraient arriver sur ce navire en même temps qu'un stock conséquent de carburant.
Et puis on termine par de la culture.
Oui, avec le retour cette année encore du mini Heiva sur le Motu de l'Intercontinental. Ça se passe sur deux week-ends, d'abord les vendredis 28 et le samedi 29 août, puis la semaine suivante. Alors pour cette 41e édition, on pourrait comme d'habitude retrouver les groupes primés au Heiva, quatre soirées exceptionnelles sur le thème des dieux et demi-dieux polynésiens. Et en petite nouveauté, les organisateurs ont souhaité innover et proposent aux spectateurs de se prêter au jeu d'un code vestimentaire particulier, défini pour chaque soirée. Les précisions avec Sabrina, chef de projet sur cette édition.
On va commencer avec Taharoa, où le blanc sera mis à l'honneur pour refléter le mythe de la création dans sa coquille originelle de Rumia. Le lendemain soir à la soirée Ruauta, on pourra se draper de bleu océan. Donc Ruauta, c'est le dieu tout simplement de l'océan. Le week-end suivant, nous représenterons la soirée Maui avec un rouge écarlate pour son petit clin d'œil au demi-dieu fastidieux qui a dérobé le feu et arrêté la course du soleil. Enfin, pour clôturer ce merveilleux mini-heiva, Ina, la déesse de la lune, sera mise à l'honneur.
Et autre particularité cette année, le buffet. D'habitude, il est question d'un buffet terre ou d'un buffet mer, mais ça ne sera pas le cas cette fois-ci. Car pour contenter les quelques 600 spectateurs attendus, les deux buffets se mêleront lors de ce mini Heiva. Un rendez-vous culturel et gastronomique donc qui a beaucoup évolué, mais qui selon Vaï, animatrice de la soirée depuis 14 ans, garde son identité de base.
Tous les ans, on essaye d'innover, en tout cas sur les dernières années, on a essayé d'innover chaque année en apportant une petite touche ou en faisant évoluer la très populaire élection de Miss et Mr. Mini Heiva, par exemple, ou en essayant d'inviter des groupes pour justement qu'ils puissent se faire connaître, des groupes qui ont participé au Heiva. On va dire que chaque année, voilà, on a essayé d'apporter une touche différente.
Voilà des propos recueillis par Vaï-Thierry Gobré, le mini Heiva. C'est donc les deux prochains week-ends. Voilà, c'est la fin de cette édition. Le retour de l'actualité locale, c'est à 7h30 avec la revue de presse.
Merci beaucoup, Valdemar.